France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Préparer le cochon, préparer le lit de la mariée, faire le bébé, être couturière, être cuisinière. La vie de la femme, comme celle de l'homme dans la société traditionnelle en France, a ses codes, ses rites, ses distractions. La vie est dure à la campagne. Les enfants, il n'est pas mauvais de les garder un peu sales afin qu'ils restent en bonne santé. Le mois de mai, les réveillés, le charivari, la sexualité, les rapports avec les beaux-parents, en Auvergne, mais aussi dans toutes les provinces de France. C'était Nuit magnétique, façon de parler, proposée par Laure Adler, le 16 avril 1980, sur France Culture.
Bonsoir. Ce soir, façon d'en parler. L'homme et la femme dans la société traditionnelle.
Dans ce temps-là, eh bien, il y a environ 50 ans. Il y a environ 50 ans, puisque j'ai 55 ans. Alors, les enfants, à l'âge de 4 ans, voyez, pratiquement, ils faisaient à peu près tous le même travail, puisqu'il y avait énormément de champs et peu d'élevage, on ramassait quand même de la paille, de l'avoine, tout ça. Alors, l'arrière-saison, il fallait labourer tous ces champs-là, tout ça. Et alors, voyez, quand nous avions les vacances, tout ça, les jeudis, parce que dans ce temps-là, c'était les jeudis, alors on travaillait beaucoup, beaucoup. C'était dur. Et alors que maintenant, il y a eu le remembrement, tout ça, ça a transformé la vie de l'agriculture énormément. Ça a changé énormément. On nous a fait des chemins, presque des routes. Alors le matériel passe beaucoup plus facilement, malgré qu'il faut celui qui amène aussi les machines. Vous voyez, c'est assez dur quand même aussi. Ça secoue beaucoup les reins et tout ça. Chaque métier a bien ses inconvénients. Mais enfin, la vie n'est pas du tout pareille. Dans le temps, n'est-ce pas, les femmes travaillaient beaucoup à l'étable. Elle travaillait dans les champs. C'était très dur pour les mamans qui avaient des enfants. Il fallait bien souvent les transporter aux champs, même malgré le froid, malgré s'il n'y avait personne pour les garder à la maison. Il y avait des problèmes aussi de cohabitation. Il fallait rester avec les grands-parents, les parents. Ça posait des problèmes énormes pour les couples jeunes. C'était peut-être même dramatique, souvent même, souvent. et que maintenant, il n'y a pratiquement plus de couples jeunes qui sont avec les parents. Ils ont chacun leur petite indépendance, comme en ville, pratiquement, comme en ville. Mais bien sûr que la vie aussi est difficile, parce que, évidemment, il y a quand même, ça a beaucoup changé, mais il y a quand même du travail. Mais on ne va plus, les femmes ne vont plus pratiquement à l'étable pour traire, pour les champs, il n'y en a plus. Nous sommes du tout le coin, là, le canton de Rochefort-Montagne, nous sommes pratiquement tout en herbage. C'est uniquement de l'élevage qui se fait. Il ne se fait pas grand-chose plus.
Odette Morange, agricultrice de Rochefort-Montagne en Auvergne, ainsi que ce soir en direct, Yvonne Verdier pour Façon de dire, façon de faire, Françoise Loux, Le corps dans la société traditionnelle, Martine Ségalène, Mari et femme dans la société paysanne, Michel Vallière, Amour paysanne.
Toute la famille était invitée. Alors, on préparait ça pendant quelques jours à l'avance. Et puis, on faisait le boudin. Et alors, les femmes avaient des machins particuliers pour le faire. On mettait des petits lardons, des oignons qu'on faisait frire avant pour mettre. D'ailleurs, voyez-vous, nous avons gardé nos traditions. Et alors, les gens, ils prenaient un gars qui avait l'habitude, un tueur qui avait l'habitude dans le pays d'aller tuer les cochons. Alors il savait très bien faire ça. Et puis ça faisait la fête pendant un jour ou deux, voyez. Et c'était très intéressant. On salait nos jambons, ce que nous faisons encore d'ailleurs. C'est un cousin qui vient nous tuer nos cochons, notre porc, toutes les années. Et puis alors, bon, nous faisons un peu la fête ce jour-là, mais ça dure quand même quelques jours, voyez. Et puis, nous faisons les croûtons, nous faisons tout ça, nous faisons nos saucissons. Nous aimons particulièrement ce que nous faisons.
Yvonne Verdier, vous avez passé un long moment à Minot, qui est un village du Châtillonnais entre 1968 et 1975. Et vous avez parlé avec les femmes, il y avait d'ailleurs des moments privilégiés pour parler avec elles, dites-vous, c'était le plus souvent à l'heure du café ou l'après-midi quand il y avait du repassage vers 4 heures ou l'hiver près de la cuisinière. Et vous notez que finalement c'est à l'occasion de la description de la tuerie du cochon que vous est venue finalement la spécificité de la parole des femmes. Alors je crois qu'il faudrait peut-être que vous racontiez comment ça se passait. Ça se passait peut-être pas en Auvergne de la même façon que ça se passait dans le Châtillonnais.
En gros, je crois que les grands principes qui se disent autour du cochon sont un peu les mêmes en Auvergne et dans le Châtillonnais. Mais ce que n'a pas dit cette dame que nous avons écoutée tout à l'heure, c'est qu'autour du cochon s'organise toute la vie sociale et surtout le principe de la séparation des tâches. Et autour de ce cochon, qui est en quelque sorte une bête sacrifiée, s'élabore tout un cérémonial. Et à partir de ce cérémonial, on voit très très bien les différents rôles sexuels. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'interdits font que les femmes vont se trouver toujours du côté de la cuisine et les hommes vont se trouver du côté du salage. On fait très bien la distinction entre cette fonction culinaire des femmes et la fonction sacrificielle des hommes. Ils vont tuer et ils vont saler la bête. Ceci se réfère aussi à la physiologie féminine, c'est-à-dire que les femmes qui ont leurs règles, qui sont elles-mêmes sanglantes, seront écartées du maniement de la viande et surtout de sa conservation, parce qu'elles sont censées faire tourner toute la viande si elles s'en approchent ces jours-là. En revanche, elles peuvent fort bien faire la cuisine. Et s'énonçait autour du cochon des grandes fonctions féminines qui sont de faire cuire, de nourrir et l'acte masculin qui est tout à fait en rapport avec leur rôle dans la société, qui sera celui de tuer et de conserver.
Alors ce cochon, il était acheté bien souvent à la foire, mais il était nourri par les femmes de la maison.
Il était nourri par les femmes de la maison, on lui fait sa cuisine, c'est un animal domestique qu'on garde très près de la maison. Et qu'on aime, qui a d'ailleurs sa petite maison, sa soue, et à qui on porte à manger. Il est souvent nourri à plusieurs, et le fait de le nourrir donne droit à un morceau de ce cochon. Aussi le fait d'être en parenté éventuellement avec les gens qui ont ce cochon. Ils se partagent, souvent on ne tue qu'une moitié de cochon, et il est au centre d'une grande fête le jour où on le tue, et on distribue toute la nourriture, tout ce qui ne se conserve pas ce jour-là.
Et ce sont toujours les hommes, un homme, le tueur de cochon qui le tue, et ce sont toujours les femmes qui vont préparer le cochon.
Oui, alors il y a tout un jeu sexuel qui s'élabore autour de ces techniques. Les femmes vont faire les boudins, vont souffler dedans, les hommes vont s'approcher, plaisanter, et il y a une obscénité tout à fait particulière qui est de règle ce jour-là. On échange des propos tout à fait grivois, et c'est la fête, on s'abuse beaucoup.
Alors vous notez donc cette cérémonie du cochon qui divise les tâches sexuelles à l'intérieur de la société traditionnelle, et vous notez aussi, référence à votre titre, façon de dire, façon de faire, qu'il y a un personnage féminin extrêmement important à l'intérieur de cette société villageoise, c'est la dame qui fait, pour reprendre les propres termes de Minot, c'est la dame qui fait les accouchements. Voici le témoignage d'Odette Morange en Auvergne.
Ah oui, moi, du temps de mes parents, c'était toujours une dame, que même la dame, des fois, ne pouvait pas être partout. Et j'ai assez entendu dire par ma grand-mère qu'elle-même, elle allait souvent aux accouchements parce que c'était une personne de son temps instruite, très intelligente, et qui, bien souvent, était là pour couper le cordon et pour mettre le petit bébé en position qu'il fallait et pour faire un peu, des fois, attendre la maman ou quelque chose. Enfin, ça arrivait très souvent. Il y avait quand même des personnes à la campagne qui étaient plus évoluées que d'autres. Ça a toujours existé. Mais il y en avait bien qui n'étaient pas évoluées du tout aussi. Et c'est ça qui était triste, des fois. Et qui faisait, bien sûr... Et alors, parce que la sage-femme ne pouvait pas être partout à la fois. Mais moi-même, j'ai eu mes enfants à la maison. Je n'ai pas été en clinique.
Et donc, vous avez eu cette dame qui est venue vous aider?
Ah non, mais cette dame, non. Ça ne se faisait plus de bon temps. C'était le docteur. C'était du temps de ma maman.
Oui.
Mais du temps de ma maman, bien sûr, évidemment, il n'y avait que la sage-femme, il n'y avait pas autre chose. Le docteur n'allait jamais, ne s'occupait pas des accouchements.
Yvonne Verdier, à Minot, vous avez rencontré cette femme qui fait les enfants, vous l'avez rencontrée à l'arrière-fond de sa maison, elle tenait un café, je crois, elle s'appelle Marceline. Et Marceline vous a dit tout simplement, j'ai fait 45 bébés à Minot. Alors que veut bien dire ce terme, j'ai fait des bébés?
Ça veut dire qu'à chaque accouchement, jusque dans les années 50 à peu près, on l'appelle. On l'appelle dès que les premières douleurs sont là. On l'appelle même si, disons après-guerre, un docteur venait à la maison. Elle est censée, en fait, préparer le lit de l'accouchée, préparer tout, et surtout faire le bébé, comme on dit. C'est-à-dire, faire le bébé réfère au fait qu'elle va le baigner et qu'elle va lui donner ce passage par l'eau qui va les faire venir au monde, socialiser, le faire passer, si vous voulez, de là où il vient, de l'au-delà jusqu'à nous. Hein. Et ce qui est d'autant plus intéressant chez cette femme, c'est que cette baignade, cette technique du lavage, elle va l'employer aussi pour les morts. C'est la même femme qui va, comme on dit, faire les bébés, qui va faire les morts en employant la même technique, celle du lavage. Et aussi, elle utilisera un morceau de tissu qui est le linge pour envelopper l'enfant et un autre morceau de tissu pour envelopper le mort, c'est le linceul. Et ce rôle m'a paru vraiment très important parce que, en plus, il est tenu par des femmes âgées et c'est un rôle qui est considéré comme dangereux. N'importe qui ne peut pas le faire. Si le mort, on comprend très bien qu'un mort est un peu dangereux à manipuler parce que, vous savez, les morts ont toujours envie d'emmener leurs parents, leurs amis avec eux. Et le problème, c'est de s'en débarrasser. Donc, c'est toujours une étrangère qui vient faire ce travail. Et une vieille femme, une femme ménopausée, qui ne craint plus rien, qui ne craint pas l'eau froide en particulier. Et là, c'est la même chose pour les bébés. Les bébés qui arrivent de loin sont quand même un petit peu dangereux à manipuler aussi, et ils font peur. Et c'était aussi pour ça qu'on fait appel à quelqu'un de l'extérieur, je crois.
Et c'est aussi pour ça qu'on ne la paye jamais avec de l'argent.
Non, on la paye jamais avec de l'argent. Et aussi, bon, c'est aussi parce que c'est une sorte de service rendu et que donner de l'argent pourrait aussi, par rapport à la loi, faire croire que c'est un exercice illégal de la médecine. Alors peu à peu, il y a toujours ces femmes se retranchent derrière. On lui donne des petits gâteaux, des petits cadeaux, des boîtes
sous
de gâteaux.
Sous forme de petits gâteaux.
Des petits gâteaux secs. D'autres colognes, des pantoufles, des petites choses comme ça de la vie courante qui sont un peu décolifichées quand même. Ouais.
Alors la femme au saloir, la femme qui fait les bébés, la femme qui fait les morts, troisième personnage féminin de votre livre, c'est la couturière. Voici le témoignage d'Odette Morange.
C'est elle qui faisait toutes les affaires du pays. Et d'ailleurs, ça ne l'a pas empêchée de devenir vieille. Elle a 96 ans. Elle m'a fait mon costume, elle m'a fait ma petite robe de baptême, elle m'a fait mon costume de première communion, elle fermait dans la ceinture à peu près, mais 30 centimètres, ce qui faisait que nous portions pour les fêtes notre beau costume de première communion. Remarquez que nous avions pris la robe blanche, je veux dire le lendemain, le costume du lendemain, parce que nous avions bien notre petite robe blanche comme toutes les communions. Il y avait deux costumes, oui. Les garçons n'avaient pas. Ils avaient que leur costume, leur vrai costume. Mais ce costume qu'elle nous faisait, il nous faisait vraiment... Vous voyez, ils achetaient quand même du beau tissu. Elle était très adroite et elle faisait pratiquement tous les costumes du pays. Alors là, elle s'y prenait de bonne heure. Elle avait 4 ou 5 ouvrières. C'était vraiment un métier extraordinaire. Ouais, elle m'a tout fait. Elle m'a fait ma robe de mariage. Elle m'a fait mon costume pour le lendemain de mon mariage. Elle m'a fait même celle pour mes enfants, vous voyez, pour ma fille aussi. Elle m'avait fermé un de ses ourlets là-dedans. Vous savez, c'était même de trop. Mais elle avait l'habitude, elle le faisait pour bien faire. Et cette demoiselle, c'était une demoiselle. Et cette demoiselle, elle est encore bien parmi nous. Et elle va très bien, vous voyez. Ça ne l'a pas à user.
Yvonne Verdier, donc après la femme qui fait les bébés et la femme qui fait les morts, la Marceline, il y a aussi la couturière, et Amino, la couturière, s'appelle Émilienne. Alors je crois qu'il faut dire comment se passe cette fonction de couturière et comment finalement toutes les jeunes filles de Mino étaient obligées de passer chez cette couturière. C'était un stage initiatique.
Oui, on peut dire les choses comme cela, et vraiment la couturière prend sa place parmi les grandes fonctions féminines qu'on a annoncées jusqu'à présent. Et cette couturière était chargée de dégrossir les filles quand elles avaient 15 ans. C'est-à-dire qu'au moment de leur puberté, quand elles atteignaient 14-15 ans, on les envoyait passer un hiver chez la couturière. Et le plus drôle, c'est que toutes m'ont dit « mais on n'apprenait pas à coudre ». Je dis, mais qu'est-ce qu'on faisait? Non, on faisait les ourlets, on ramassait les épingles, on ne passait qu'un hiver. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet hiver correspondait à l'entrée pour les filles dans le groupe des jeunes filles. Et le même hiver, bon, l'hiver, ça commence toujours le 1er novembre, à la fin du mois de novembre, à la Sainte-Catherine. En même temps, elle fêtait cette Sainte-Catherine et rentrait dans le groupe des filles et commençait à aller à danser. C'est-à-dire qu'en même temps, elle faisait la couture la semaine et le dimanche, elles allaient danser. Et toute la fonction de la parure, de la coquetterie, ce dégrossissage était en quelque sorte donné par le passage chez la couturière. Mais il ne fallait que passer, parce que si on restait trop longtemps, on risquait de devenir trop coquette. Parce qu'à trop coudre, on devient légère. Et tout un folklore de la couture passe par le maniement, de l'aiguille et du fil qui s'opposent au maniement de l'épingle. L'épingle, ce sera l'outil de la jeune fille, ça sert simplement à attacher les vêtements, ça sert au jeu de la divination amoureuse. Bon, il y avait toute une divination dans les fontaines qui consistait à lancer les épingles, l'épingle qui attache, et donc on pouvait ainsi s'attacher un cœur, se trouver un amoureux. Mais ceci, bon, dans une période, si vous voulez, de relations galantes entre garçons et filles, tandis que manier le fil et l'aiguille ressort d'un symbolisme sexuel très appuyé. On le voit dans les petites plaisanteries du genre « qu'est-ce qui passe et repasse par le petit trou ?» Réponse, le fil ou bien autre chose. Il y a tout un folklore très très amusant sur le métier de couturière. Par exemple, il y a une histoire gasconne où il y a un juge qui interroge une jeune fille parce qu'elle est une jeune fille de mauvaise vie, plutôt une jeune femme, et il lui demande quel métier faites-vous, et elle répond putain, monsieur le juge, pour vous servir, et le juge dit au greffier, greffier, inscrivez couturière. Alors ça en dit long sur la réputation des couturières, qui étaient considérées, étant donné qu'elles cousaient, qu'elles allaient de maison en maison, c'est un métier d'ailleurs qui se pratiquait chez les autres, mais qui était dans le propre, contrairement à des travaux féminins, disons, de la laveuse ou bien de la fille qui allait dans les champs, de l'ouvrière agricole. La couturière était plus coquette, mieux mise, et elle était plus souvent séduite. En tout cas, on le pensait.
En tout cas, dans les archives communales de Minot, vous avez quand même trouvé que les couturières étaient généralement des femmes qui vivaient seules avec leurs enfants.
Oui. Oui, oui. De même, beaucoup de journalières, mais autant de couturières.
Et puis, il y avait ce pouvoir de la couturière qui était quand même de faire la robe de la mariée.
Oui, alors de même qu'elle apprêtait en quelque sorte la fille au moment de sa puberté, et qu'on peut voir dans ce façonnage vestimentaire un façonnage presque physiologique, il faut en quelque sorte, grâce aux épingles, placer le sang de la jeune fille. De même, à la veille du mariage, elle reconstituait en quelque sorte l'ensemble des attributs de la jeune fille en la couvrant d'épingles, parce que la coiffure de la mariée est truffée d'épingles. Et ces épingles, le soir de la noce, elles vont tomber les unes après les autres, elles vont être distribuées aux autres jeunes filles, vont leur porter bonheur d'ailleurs, vont leur permettre de trouver un mari. Mais la dernière épingle doit tomber, et doit tomber et être ôtée par l'époux qui va déflorer la jeune fille et la faire femme.
Michel Vallière, vous avez trouvé ces coutumes-là dans le Poitou où vous travaillez ?
En Poitou, par exemple, une jeune fille qui cherche un époux, elle peut mettre une épingle dans la queue du costume, enfin de la robe de la mariée, de la dernière mariée. Alors elle pourra se marier dans l'année. Et les épingles, effectivement, sont utilisées à des fins de nuptialité, si j'ose dire. Évidemment, quant au symbole sexuel de l'aiguille, alors dans mon village d'origine, dans le midi de la France, les jeunes filles, quand on disait qu'elles enfilent les perles, ça veut tout dire, n'est-ce pas ? Dans le maniement de l'aiguille, enfiler des perles, c'est un symbole sexuel évident.
Et Martine Ségalen, vous avez trouvé à l'intérieur de vos recherches sur la société traditionnelle aussi un symbolisme de l'aiguille et des choses qui étaient dites un peu méchantes sur les couturières ?
Moi, je pense que les sources sur lesquelles je travaille ne sont pas très différentes de celles d'Yvonne. Donc, effectivement, j'ai trouvé tout à fait un ensemble de choses semblables. La région dans laquelle je travaille plus particulièrement est la Bretagne. Et en Bretagne, il n'y a pas, semble-t-il, de couturières, il y a plutôt des tailleurs ambulants. Mais les hommes aussi, enfin les tailleurs ont aussi un statut assez particulier. Ils sont à moitié hommes, à moitié femmes. Ils sont des d'abord par leur attitude physique, ils sont assis sur la table, en tailleur, toute la journée. Ce sont des gens dont on se moque, justement, et qui ont le pouvoir, eux, de faire les mariages, précisément. Les tailleurs comme les mendiants qui allaient de ferme en ferme proposaient très souvent les mariages en titre d'entremetteurs, et ils ont donc un rôle dans le jeu nuptial comme la couturière de Minot d'une autre façon.
Alors la couturière de Minot, la femme qui fait les bébés, qui fait les morts, la femme qui fait tourner l'art, il y a aussi la cuisinière, mais ça nous allons y revenir un peu plus tard.
Thank you.
voyais ma maman, elle fauchait avec le cheval et la machine, et derrière il fallait tourner à mesure que le cheval marchait, et c'était très pénible. Quand il arrivait bien souvent vers midi, on était vraiment il fallait tenir, et c'était vraiment dur pour des enfants de stage. C'était une vie très dure, mais malgré tout c'était la vie de la campagne. Et puis on allait garder les bêtes dans les prés, on allait garder les troupeaux dans les prés. Et mon mari, qui était lui plus jeune, qui était un petit peu plus âgé, il avait son petit troupeau de moutons. Il allait le garder aussi les jeudis, et il allait à l'école, mais pas trop souvent.
Pas les chemins, surtout.
Françoise Loux, ça fait maintenant une dizaine d'années, même peut-être plus, que vous travaillez sur le corps. Vous avez fait une exposition au Musée national des arts et traditions populaires. Vous avez fait aussi des recherches sur les médecins, sur les guérisseurs, sur les penseurs de secrets, sur l'éducation corporelle de l'enfant. Bref, assez de recherches pour essayer de faire un livre absolument merveilleux sur le plan iconographique, ainsi que sur ce qui est de vos commentaires sur cette iconographie à propos du corps dans la société traditionnelle. Odette Morange parlait du corps au travail, et c'est ça qui ressort tout de suite de votre livre, c'est qu'effectivement, on ne peut pas imaginer à l'intérieur de la société traditionnelle un corps qui ne soit pas en train de travailler.
Oui, exactement. Ce que j'ai voulu dire dans mon livre, et montrer par mon livre et par l'exposition que j'avais fait avant, c'est que le corps a une place fondamentale dans la société traditionnelle ancienne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours dit. Les sociologues ont eu tendance à dire que le corps est une découverte récente, avec toutes les techniques de relaxation corporelle, etc. Or, ça m'est apparu assez faux, parce que dans la société ancienne, le corps, c'est le premier instrument de travail. Donc, c'est sur le corps que tout se base et que tout se fonde, sur ce corps qui est l'instrument de travail. Alors, il y a beaucoup de proverbes. J'ai travaillé sur les proverbes relatifs au corps. Il y a plus de 5000 proverbes relatifs au corps dans les différentes régions françaises, ce qui montre cette importance d'emblée du corps dans le discours des paysans. Et ces proverbes relatifs au corps basent tout sur le travail. Par exemple, toute la morale, quand on l'écoute, peut paraître semblable à la morale bourgeoise, qui est une morale de modération, de faire attention, de se lever tôt, de se coucher de bonne heure également. C'est une morale qui est basée sur le travail de ce corps. Parce que si on ne ménage pas ses forces, on ne peut plus travailler. Et si on ne travaille pas, c'est absolument la ruine de la maison, c'est la pauvreté et c'est très rapidement la mort. Donc le corps, c'est le premier instrument de travail. Si le corps est menacé par la maladie, quand la maladie arrive, c'est également la ruine. C'est pour ça qu'on a dit aussi très souvent que dans la société rurale, il n'y avait pas de médecine, il n'y avait pas de prévention. C'est aussi tout à fait faux. C'est une prévention très différente de la nôtre. Par exemple, pour que les enfants soient en bonne santé, on conseille de laisser les enfants un peu sales. Donc les médecins actuels pousseraient les hauts cris devant ça, mais c'est une prévention tout à fait réelle. Et donc, ce corps, il faut le protéger, il faut le soigner, il faut faire attention à lui, parce que c'est un instrument de travail important. Et ce corps au travail, qui est façonné par le travail, c'est le corps qu'on retrouve aussi comme principal instrument de la fête. Et dans la fête, quand on voit les danses traditionnelles, pas dansées par des groupes folkloriques un peu légers, mais par des groupes folkloriques traditionnels, on voit que c'est souvent des danses qui sont un peu lourdes, parce qu'on sent que le corps est complètement façonné dans ses postures par le travail. Donc on retrouve absolument le travail comme fondement et comme la base de tout. Et on s'aperçoit aussi que dans les fêtes, que dans les pèlerinages, que dans tous les rituels, le corps intervient également. Une fois dans une enquête, un curé de village me disait « Quand on rentre dans une église, on voit tout à fait un paysan, la façon dont il se comporte. » Parce que prier, pour lui, c'est quelque chose d'abstrait, ça ne veut rien dire. Il a besoin de bouger, il a besoin de quelque chose, d'aller porter un cierge, d'aller mettre de l'argent. Il a besoin de se servir de son corps. Et effectivement, il se sert de son corps tout le temps, donc il a besoin de se servir de son corps également dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle.
Oui, Odette Morange, je racontais tout à l'heure comment elle avait commencé à travailler dès l'âge de 4 ans. Vous vous dites, parmi tous les proverbes que vous avez étudiés, que dès que l'enfant naît, finalement, on lui apprend dès sa naissance à travailler. Il y a un proverbe que vous citez, « Ce qu'on apprend au ber, c'est-à-dire au berceau, dure jusqu'au ver, c'est-à-dire jusqu'à la tombe. » Et que dès que l'enfant naît, dans une province, je ne sais plus laquelle, on lui met dans les mains, à ce petit bébé, l'objet avec lequel son père peut gagner sa vie, si c'est un artisan ou si c'est un paysan.
C'est après le baptême que ça se passe, parce que le baptême est en quelque sorte le premier rituel de socialisation. On est deux fois, on est à la vie par la naissance et puis on est à la société par le baptême. Et c'est au retour du baptême que l'artisan pose de la main de l'enfant l'objet dont il se servira plus tard. Et également au moment du sevrage aussi, qui est un moment très important, on sépare l'enfant de la mère et le père donne à l'enfant une nourriture, que ce soit un morceau de pain ou un verre de cidre. Et on dit que si cet enfant prend bien la nourriture, surtout si c'est un garçon, ça sera plus tard un bon cultivateur parce qu'il aura su se détacher de la mère et être près de son père. Donc effectivement, toute la petite éducation de le plus petit âge concerne le travail futur de l'enfant. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'une grande crainte concernant la petite enfance, c'est la crainte d'une part de l'animalité et d'autre part de l'inachèvement de l'enfant. Et un enfant qui n'est pas inachevé, qui est un petit monstre, ou un enfant qui est un petit animal, ça ne pourra pas être un homme, donc ça ne pourra pas être une force de travail plus tard.
Et puis c'est tout le corps qui est utilisé. Vous racontez comment, par exemple, la salive peut être un instrument pour nettoyer des parties du corps et que petit à petit, au fur et à mesure que l'enfant grandit, on apprend au contraire à maîtriser ce qu'il ne doit plus faire avec son corps, c'est-à-dire ne plus cracher, ne plus utiliser sa salive, ne plus tirer la langue.
Plus exactement ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a une différence entre finalement ce qui peut être la façon populaire d'utiliser son corps, qu'utilise son corps de façon très pleine, très complète, qu'utilise la salive, qu'utilise la bouche, qu'utilise même les dents comme instrument de préhension, et puis la façon plus bourgeoise des traités de savoir-vivre par exemple, qui au contraire apprend à se servir de moins en moins de son corps. On apprend aux petits enfants dans les écoles à ne pas mouiller leurs doigts avec la salive pour tourner les pages, ou à ne pas se servir de leurs dents, de leur langue.
Michel Vallière.
Oui, alors sur le corps, là, il y a beaucoup à dire, évidemment. Par exemple, sur la petite bergère en Poitou, lorsque, à l'époque où il y avait des loups, eh bien, elle se transformait le visage, elle ramenait tous ses cheveux devant elle, elle s'arc-boutait, elle se transformait elle-même en animal, elle secouait sa tête d'une façon terrible, comme ça, pour effrayer le loup et en tapant sur ses sabots. Disons, elle changeait complètement de visage et le loup était censé avoir peur.
Mais ouais. Elle relevait la robe devant ou derrière?
Non, elle relevait ses cheveux, et elle se cognait ses sabots.
En Berry, les bergères faisaient fuir le loup en dénouant leur ceinture, en ôtant leur bonnet, donc en étant échevelée, la ceinture baissée, c'est-à-dire en étant toute nue. Et le loup partait parce qu'il avait honte.
Oui, voyait beaucoup de poils, peut-être. Je ne sais pas, c'était quand même le système pileux qui intervenait.
Le loup, c'était le sexe de la jeune fille.
Ça, c'est un thème de conte très précis.
C'est un thème de conte. Et de toute manière, le pouvoir comme ça du sexe féminin mis à nu est employé, par exemple, contre la tempête. Bon, le lit d'Ampline, mais on le retrouve encore en Europe centrale très facilement.
Quelquefois, il y a un substitut par le lapin, n'est-ce pas, en Normandie
C'est un substitut. En fait, il s'agit justement de mettre en avant, si vous voulez, le sexe féminin comme faisant fuir, enfin, et la tempête et le loup.
Il y a des fois aussi où le corps féminin est une plante. Là, Françoise Loux, vous pourriez peut-être raconter comment se passait la cueillette des mandragores.
Oui, alors la cueillette des mandragores, c'est une légende d'ailleurs. La mandragore, c'était une plante qui avait des tas de pouvoirs magiques. Enfin, je crois que c'était la plante la plus magique et la plus extraordinaire. Et c'était une plante dont la racine ressemblait à un bas de corps. Généralement un bas de corps de femme, mais ça pouvait être aussi un bas de corps masculin. Mais enfin, c'était une plante qui ressemblait à un corps humain. Et cette plante, quand l'herboriste voulait la cueillir, il fallait faire très attention, car quand on la cueillait, on la tuait, et quand elle mourait, elle poussait un cri terrifiant, et celui qui entendait ce cri tombait mort sur place. Alors pour la cueillir, l'herboriste attachait à sa racine une ficelle. Au bout de la ficelle, il mettait un chien affamé, et il éloignait un peu de nourriture de ce chien. Et le chien affamé, l'herboriste s'enfuyait tout de suite en se bouchant les oreilles, et quand le chien se précipitait vers la nourriture, il arrachait ainsi la plante, et le chien mourait sur place, tué par le cri effrayant de la mandragore.
Il y a aussi des choses complètement étonnantes que vous dites à propos de l'apparence physique. Et par exemple, du visage, Vous dites que, enfin, il y a énormément de dictons, j'imagine, sur la signification des différents traits de nos visages. Nez en l'air, homme généreux, nez court, paresseux. On peut passer aux yeux, si vous voulez. Yeux gris vont au paradis, yeux bleus vont...
aux
cieux. Les yeux verts vont en enfer, évidemment. Les yeux noirs vont au purgatoire. Pourquoi toutes ces... Qu'est-ce que signifient tous ces proverbes? Et pourquoi toute cette... toute cette importance accordée à tous les traits du visage?
Il y avait toute ce qu'on peut appeler une physionomie populaire qui était dans les proverbes, qui était aussi dans les livrets de colportage, et qui était finalement, qui faisait partie de la théorie que l'extérieur, les qualités extérieures reflètent les qualités profondes. Bon, c'était un moyen de connaître les gens, de connaître les inconnus, de savoir tout de suite si on pouvait se fier ou non aux inconnus, mais de façon plus profonde, ça correspond aussi à tout ce qui fait la base de la médecine populaire, qu'on appelle couramment la médecine des signatures. C'est-à-dire que les propriétés extérieures des choses, que ce soit la forme, la couleur, renvoient leur qualité profonde, et leur qualité profonde en fonction du corps humain. On dit par exemple que le vin est bon parce qu'il est rouge comme le sang, et donc qu'il est bon pour le sang. Ou que la chélidoine, qui est une plante aux fleurs jaunes, est bonne contre la jaunisse parce qu'elle a la couleur de la jaunisse. Et même les noms, enfin le langage, fait partie de cela. C'est pour ça qu'on dit très souvent, il y a beaucoup de jeux de mots, et ça Yvonne pourrait le dire aussi, il y a beaucoup beaucoup de jeux de mots dans le langage populaire. Or ces jeux de mots, c'est pas des jeux stériles, ça a vraiment toujours un sens. Par exemple, ces proverbes qui riment entre eux, yeux bleus ça va aux cieux, le fait qu'il y ait une rime entre bleu et cieux, ça fait partie de la nature des choses, que le bleu est lié au ciel et que le vert est lié à l'enfer. Je crois que, les noms des saints, c'est la même chose. Saint-Loup guérit de la peur à cause de son nom. Il faudrait trouver des tas d'autres exemples.
Oui. Je ne pense pas. Sainte Colique guérit du mal au ventre. Sainte Accoupie aussi. Enfin, là, je pense que là, c'est le phénomène d'analogie. Ça n'a pas un caractère universel parce que ça ne résiste pas à la traduction de langue à langue, justement. Mais ailleurs, les yeux bleus sont des yeux amoureux aussi. Et les yeux marrons, des yeux de cochon.
Oui. Et toujours la rime qui montre la parenté profonde des choses entre elles.
Mais quand les qualités physiques n'allaient pas bien, en l'occurrence le nez, nous avons parlé tout à l'heure du nez, vous dites qu'au cours des naissances, on pétrissait les nez des petits bébés qui n'allaient pas forcément dans le sens...
Oui, alors il y avait beaucoup de choses qui se faisaient.
On les tendait un peu pour qu'ils soient un peu mieux.
Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient à la naissance parce qu'on pensait qu'un enfant qui naissait était encore mou, était encore tout à fait inachevé et que le rôle essentiel des parents et de la femme qui aidait était d'achever ses enfants. Donc on pétrissait le crâne pour que le crâne soit plus joli, plus rond. On pétrissait le nez. On tirait un peu sur les mamelles des petites filles pour être sûre que plus tard elles soient de bonnes nourrices, ce qui était essentiel. Enfin, on faisait des tas de choses pour que le bébé soit beau plus tard. Et le fait de le mettre dans un maillot, on a souvent condamné cette pratique du maillot où les enfants étaient un peu ensaucissonnés en disant que c'était une pratique barbare pour que les mères soient tranquilles. En réalité, c'était pas du tout ça. C'était une pratique, une sorte de petit plâtre pour que les jambes des enfants soient droites. Parce qu'on pensait que si les jambes des enfants n'étaient pas droites dès la naissance, l'enfant plus tard aurait les jambes croches, comme on disait, c'est-à-dire que ce serait un petit animal qui ne pourrait marcher qu'à quatre pattes.
Alors, toutes les activités du corps sont rythmées selon les saisons, et plus particulièrement par les mois. Il y a quelque chose d'étrange que vous soulignez à l'intérieur de votre livre, c'est l'ambiguïté du mois de mai. Ambiguïté d'ailleurs qui se reflète aussi dans votre livre, Yvonne Verdier, parce que c'est quand même étrange ce mois de mai. C'est le mois de la Vierge, bien évidemment. Et c'est aussi un mois où les jeunes filles peuvent être élues par les jeunes gens. Alors pourquoi cette ambiguïté du mois de mai?
Je sais pas, je crois que le mois de mai, il faut le
Il faut raconter ce qui se passe à Mineau, Yvonne Verdier, il y a la pause.
Oui, peut raconter ce qui se passe à Mineau, mais il faut le voir sous la lumière de la lune rousse, c'est-à-dire de la lunaison particulière qu'il y a à ce moment-là. Dans la région là, du nord-est de la France, les garçons vont dans les bois, dans la nuit du 1er mai, ils coupent des jeunes baliveaux de charme et ils vont les mettre devant les maisons de toutes les filles à marier du village, c'est-à-dire de toutes les filles pubères. Je veux dire, on reçoit son 1er mai à 15 ans, à peu près d'ailleurs l'année où on rentre chez la couturière. Et la même nuit, d'ailleurs, dans ces villages, les garçons amoncellent sur la place tous les instruments aratoires, tous les pots de fleurs, tout ce qu'ils trouvent dans les cours de ferme, en un énorme tas où tout est mélangé, c'est-à-dire tout l'ordre du travail, tout l'ordre de la propriété individuelle est absolument aboli. En même temps, le fait d'avoir posé des arbres devant les filles, d'ailleurs les mets, d'ailleurs on peut rapporter ce trait au conte bien connu de la Belle au bois dormant, c'est-à-dire les filles sont chacune sous un arbre et sont un peu comme autant de belles au bois dormant, tout à fait, intouchables, dormant dans leur puberté. Et d'ailleurs, durant tout le mois, on ne doit pas se marier. Il y a un interdit de mariage. Alors cet interdit de mariage a été en fait repris au 19e avec, en mettant le mois de mai sous l'égide de la Vierge, mais en réalité c'est un interdit qui était beaucoup plus ancien et qui faisait que le temps d'emmaillement des filles faisait qu'elles n'étaient sous la puissance d'aucun homme. Elles étaient en quelque sorte affranchies. C'était sous un arbre, avec toute la liberté forestière que ça veut dire, c'est-à-dire d'être... une espèce de retour à la nature forestière, la liberté de la forêt, je crois.
Michel Vallier.
Le charme en Châtillonnet, je crois, en Poitou, ce sera l'aubépine. Mmh. Le nom local de l'aubépine, d'ailleurs, est le mai. Alors, on allait fleurir, les jeunes gens, un peu le même cérémonial, allaient fleurir avec de l'aubépine les volets des jeunes filles d'Onubile, dans tout, à peu près tout le Poitou. Mais il y avait, là c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait aussi un langage des fleurs et des plantes. Parce que si les filles pouvaient être nubiles, mais être à carquatre, parce qu'il y a un peu le chacun, il faut de tout pour faire au monde, n'est-ce pas? Alors si la fille n'était pas trop gentille ou avait quelques défauts, on pouvait lui donner par exemple du sureau. Là, c'était la suprême insulte, n'est-ce pas? Le sureau, ça veut dire qu'elle avait un très mauvais caractère, mais on pouvait aussi lui mettre des orties blanches, des choses comme ça. Alors là, évidemment, c'était pas fait. Et puis la mère et les voisines essayaient d'enlever ça le matin avant que la jeune fille se lève, si possible, parce que la jeune fille ne se lève pas toujours très tôt. Quant au tas...
Vous êtes le seul jeune homme de cette émission, d'ailleurs.
Oui, un jeune homme prolongé, un petit peu. Il faut bien un petit peu se défendre. Quant au grand tas, n'est-ce pas, qu'il se faisait ailleurs, par exemple à l'Espignan, dans mon village où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Alors là, c'était les conscrits qui faisaient ça. La nuit des conscrits, tout était perdu, tout était permis. Les filles étaient rentrées dans les maisons. Alors là, c'était tous les jeunes gens qui montaient les charrettes dans les arbres, les charrues, et qui empêchaient les voitures de passer. Tout ce qui était perdu quelque part était sur l'état, les porte-mouches, les moustiquaires, ce genre-là.
Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que dit Michel Vallier, Françoise Douce, parce que ce qui ressort quand même de votre livre, c'est une vision quand même très très modérée, et à l'intérieur de ce que vous dites du corps dans la société traditionnelle, c'est très très frappant. C'est un corps qui doit sans arrêt être dans la mesure, qui déteste les excès. Alors il y a beaucoup de proverbes, notamment sur la gourmandise, sur la goinfrerie, sur tout ce qui est licence en général.
Oui, mais c'est
pas les mêmes.
C'est pas la même chose et c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, dans la vie quotidienne, effectivement, on prône la modération et c'est effectivement très important et ça reprend ce que je disais tout à l'heure sur le travail. Si on veut pouvoir travailler régulièrement chaque jour pour le travail agricole, il faut avoir une vie modérée. Mais les temps de fête, les temps de liesse, c'est au contraire le temps tout à fait du travail, du corps excessif. Ou alors là, justement, enfin, c'est les grandes paillardises, les grands repas.
La force herculéenne.
Voilà, on boit beaucoup. Alors, en plus, oui, c'est le corps à la fête, c'est-à-dire toutes les épreuves de force, la force herculéenne. C'est aussi les baraques de foire qui viennent. Et alors ça, c'est le corps impossible, des gens qui défient la mort sans arrêt. Enfin, donc je crois qu'il y a vraiment opposition entre le corps quotidien et puis le corps de la fête qui est un corps excessif. Et alors, si les proverbes disent que la gourmandise tue les gens, c'est aussi parce que, effectivement, je pense que des excès de table énormes après une vie quotidienne où on mangeait très très peu pouvaient effectivement avoir des accidents de ce type, c'est-à-dire que des gens mouraient de trop manger.
Quelquefois, il y a quand même le mélange entre la fête et le travail. Et la gourmandise, exemple en Poitou, pour les bourreaux de batterie, pour les grands travaux à la suite des moissons, il y avait une bonne table, une bonne chaire et beaucoup de boissons. Alors là, il faut ensuite monter la paille très haut, monter le grain très haut. Alors les gars se chargeaient avec un sac, deux sacs, trois sacs, quatre sacs. Quelquefois, ils portaient, je sais pas combien, trois quintaux, quatre quintaux sur les épaules. Ou alors ils allaient monter les gerbes avec des échelles à 32 rouleaux, 32 échelons, en buvant un verre par échelon, hein, jusqu'en haut. il faisait, alors là c'était, non, il y avait tout à la fois, il y avait la fête, la goinfrerie, mmh, et le travail qui continuait sous forme de pari, enfin à qui fera le plus. Et on avait même, il y avait même jusqu'à des concours qui auraient le plus beau sexe chez les hommes, qui devraient être en érection le plus longtemps et le plus loin, alors jusqu'à porter un seau rempli d'eau avec une sur la verge en érection, enfin vraiment c'est si vous voulez, il y a une démesure dans le travail, dans la goinfrerie, et ça prend l'allure d'une fête, puisqu'on le raconte aujourd'hui comme un récit de fête. Et les femmes n'étaient pas exclues, parce que ces jours-là, on disait que la couturière ou les aides en cuisine, enfin les femmes qui étaient un peu plus maîtresses, femmes que les autres, devaient monter sur les charrettes de paille, devaient pisser par-dessus bord sans mouiller la paille.
Garder les vaches. Mon mari, quand j'avais 18 ans, nous nous sommes connus toute la vie, puisque lui, il habitait à côté, et de l'autre côté du village. Nous avons fait notre première communion ensemble, nous avons été jeunes ensemble, nous avons passé notre jeunesse ensemble, vous voyez. Vous savez, pendant, à la campagne, avant Pâques, là, il se passe, on appelait ça dans le temps les réveillés. Vous savez, on allait chanter comme ça, mais pas les jeunes filles. Oh, les jeunes filles, non, mais les garçons. Alors après, nous faisions la fête tous ensemble. Nous dansions la bourrée. Nous étions très heureux, très heureux. C'était même pendant la guerre, mais nous nous rassemblions. Nous étions des fois 20, des fois 30, 40. Des fois, nous nous rassemblions avec les autres villages de la commune. Nous avions quand même à ce moment des règles vraiment de morale qui n'existent pas aujourd'hui. Nous trouvions ça tout naturel.
Martine Ségalène, dans votre livre « Mari et femme dans la société paysanne », ce qui paraît très étrange, vous avez étudié, vous, comme Françoise Loux, aussi les proverbes, comme Yvonne Verdier, Michel Vallière, et Yvonne Verdier aussi, toute l'iconographie, tous les peintres, notamment Millet, Courbet, etc. Et aussi ce qu'on appelle les folkloristes. Et alors, ce qui ressort de votre livre, c'est que les folkloristes, de temps en temps, se sont trompés et n'ont pas bien compris toutes les coutumes qui existaient entre les hommes et les femmes avant qu'ils se fiancent ou au moment où pouvaient commencer éventuellement leur fiançailles. Vous dites notamment que je ne sais plus dans quelle province de France, mais pour manifester son amour, le jeune homme donnait des coups à sa fiancée. Oui, grosses bourrades.
Disons que j'ai essayé de réfléchir à partir d'un ensemble de textes, puisque là, ce n'est pas vraiment un travail de terrain comme celui d'Yvonne que je rapporte là. J'ai essayé de réfléchir aux relations amoureuses entre les garçons et les filles avant le mariage, et puis ensuite aux relations entre les hommes et les femmes dans la société traditionnelle, enfin, dans la société paysanne, à partir d'ailleurs d'une petite exposition qui avait été faite au musée il y a plusieurs années et qui traitait de ce sujet. En effet, d'ailleurs, quand on prend les folkloristes, selon le cadre traditionnel d'Arnold van Gennep, qui nous proposait ses rites de passage, en ce qui concerne la vie, il avait le rite du mariage, auquel on consacrait toujours de très nombreuses pages, puis ensuite on passait au rite de la mort, directement. Et il me semble qu'il y avait quand même quelque chose à étudier entre les deux sur la vie conjugale. Donc j'ai travaillé sur les écrits des folkloristes, j'ai aussi réfléchi à un certain nombre de discours qui ont lieu qui sont en discussion dans la communauté scientifique avec les historiens sur la place de l'amour et la façon dont on nous présentait des mariages toujours arrangés et faits par les parents, par la volonté des parents. Et je pense qu'il y avait probablement place pour un sentiment, dans le cadre d'un certain contrôle social que les jeunes gens connaissaient, intégraient, qu'ils savaient certainement les limites qu'il ne fallait pas dépasser, quels étaient les gens avec qui ils pouvaient se marier. Et dans cette limite-là, probablement, il y avait une relative liberté. Et effectivement, les folkloristes sont des gens qui étaient des érudits locaux, des notables, qui s'intéressaient à une culture qui était en voie de disparition, leur semblait-il. Et eux étaient des bourgeois qui avaient un certain code moral, et en particulier les codes de leur relation amoureuse n'étaient pas celui qui prévalait dans la société paysanne. C'est pourquoi ça leur semble, au titre des curiosités, de dire que quand un garçon et une fille s'aiment, ils se donnent des grandes bourrades ou ils s'envoient des petits cailloux, etc. Je crois que ça, c'est à relier à ce que disait François sur la place du corps. Il est très important que la femme soit en bonne santé, soit une bonne travailleuse, puisse à la fois assumer ses grossesses et le travail qu'elle a à faire à la ferme. Et c'est pourquoi, en somme, éprouver à l'avance d'une certaine façon symbolique ou réelle la force de sa future femme est quelque chose de très important.
Oui, mais ça dépendait des régions. Il y avait des régions où il était possible aux femmes d'avoir des relations amoureuses avec des garçons. Vous citez notamment un proverbe savoyard qui dit « Jamais fille qui s'est fait trousser le cotillon n'a déshonoré une maison ». Il y a aussi d'autres régions où on peut trouver des proverbes complètement opposés. On a vraiment l'impression que cela dépend. Ça dépend de quoi ?
Tout à fait. Enfin, ça dépend de quoi ? C'est difficile à dire au niveau général de la France. Une hypothèse pourrait être que dans les sociétés où il existe une assez forte hiérarchie sociale, où il y a quelque chose à préserver, où des mariages ne peuvent pas se passer, au sein d'une société dite paysanne et que nous voyons paysanne de l'extérieur, il y a des clivages à l'intérieur, des paysans qui sont propriétaires, d'autres qui ne sont que fermiers, d'autres qui sont de très pauvres journaliers. Il n'est pas question que des mariages se fassent d'une catégorie à l'autre. Et je pense qu'en Bretagne, dans la région où je travaille personnellement, qui est le sud du pays Bigouden, les femmes m'expliquent que vraiment il y a des entremetteurs de mariage, que les filles étaient extrêmement contrôlées et qu'il n'était pas question pour elles d'avoir une liberté. Que, par contre, on observe beaucoup plus dans d'autres régions de France, en particulier, il y a cette coutume qui prévaut dans le sud-est de la France et qu'on trouve également en Suisse ou en Allemagne, qui s'appelle le Killgang et qui permettait, avec l'approbation des parents bien sûr, qui permettait aux garçons de venir passer la nuit dans la chambre de leur fiancée, soi-disant tout habillée. Oui, en français, ça s'appelle courir la trosse. Et il y a l'usage infernal de la trosse ou tressasse contre lequel les évêques ont tonné pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle et qu'on a observé encore jusqu'au début du XXe siècle. Bien, dans cette région, effectivement, il y a relations plus ou moins avancées entre les jeunes gens au vu et au su de la communauté. Enfin, la communauté est tout à fait d'accord. C'est pas une transgression. Donc je crois que là, il y a des différences, effectivement.
Alors donc, on se donnait des coups, on se serrait les mains tellement fort que ça faisait mal aussi bien au jeune homme qu'à la jeune fille, on s'envoyait des cailloux, on se donnait aussi des petits cadeaux, des bijoux, des foulards, je crois. Et puis, oui, il y avait aussi le moment quand même très très compliqué. Alors là, Michel Vallière, vous le décrivez très bien quand vous avez été interviewé Adeline Jaudrelet, qui vous l'explique fort bien. C'était le moment quand même très très compliqué où le jeune homme arrivait dans la maison de la jeune fille et le problème était être ou n'être pas accepté. Alors là, ça ne se disait jamais.
Oui, alors là, c'est assez compliqué, effectivement, parce que Il y avait donc Enfin, je crois qu'il faut reprendre un peu plus haut, si vous voulez. Le cadre des mariages possibles était lié effectivement aux conditions sociales. Il n'était pratiquement pas question que le fils du domestique aille épouser la fille du propriétaire. Bon, ça, c'était...
Dans les contes.
Si, ça arrive pour d'autres raisons. Lorsque, justement, on a peur de ne pas marier la fille et que, bon, on préfère finalement avoir un gendre d'une classe inférieure, mais qui assurera quand même la relève de la ferme, le travail et puis la nourriture pour les anciens, lorsque les anciens ne pourront plus subvenir à leurs propres besoins. Maintenant, c'est un cas extrême. Mais autrement, les jeunes gens qui se connaissent, ils vont au champ ensemble, ils vont, par exemple, la jeune fille va garder ses chèvres, va garder ses moutons. Et puis, elle rencontre un laboureur qui la voit de même condition généralement, ils se connaissent un petit peu, ils savent qu'ils sont de même famille. Ils ont la possibilité de s'approcher, bon, à plus ou moins à l'insu de la famille, mais il y a quand même quelqu'un qui veille. En général, c'est la grand-mère. La grand-mère ou les grand-mères qui savent si les mariages peuvent se réaliser ou pas. Donc, parce qu'il y a des problèmes de consanguinité, d'une part, il y a des tabous d'inceste. Quelquefois, il y a un champi, c'est un enfant qui est dont le père n'est pas connu officiellement. Il y a un père, en principe, à moins que ce soit une parthénogenèse, ce qui est quand même assez rare. Et disons qu'il se peut que cet enfant ne soit pas né du père réel, donc il faut quand même lutter contre ça. Et ça, il y a finalement un discours sous-jacent, pas toujours donné sur des bandes magnétiques, sur des enquêteurs, évidemment. Et là, il y a un encadrement de la moralité officielle, si vous voulez.
Alors donc, la grand-mère prévient la famille,
Elle prévient la famille, oui, c'est ça.
Discrètement.
Discrètement, les gens, on accepte ou on n'accepte pas cette fréquentation. Bon.
Imaginons le cas où c'est accepté.
Et c'est accepté. Bon, on accepte, il faut que tout le monde le sache. Les grand-mères, les femmes, puis les hommes, puis il faut un jour ou l'autre amener le jeune homme à la maison. Alors c'est le père, bon, il le sait très bien puisque sa femme le lui a dit, évidemment. Et la grand-mère, ça se sait, c'est un secret de Polichinelle. Mais comme disait le père d'Adeline, là, moi je veux voir cet oiseau. Hein. Je veux voir cet oiseau, il faut le montrer. Et bien sûr, on le connaît. On a la renommée déjà de si c'est un jeune homme travailleur, s'il a été accepté à la loue le jour de l'assemblée de la loue et d'accueillage des travailleurs, enfin des domestiques. Et si ça lui convient, bon, il accepte dans la maison. Et si ça ne lui convient pas, il envoie la gare, enfin, il le balance. Et quelquefois, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce qu'il y avait des veillées de jeunesse qui étaient des lieux de rencontre. Il y avait des veillées de travail et des veillées de jeunesse, mettons, tous les mois, ou 7, 8 familles, 9 familles, dans lesquelles, justement, il n'y a pas que les cousins, il y a des gens qui peuvent s'épouser entre eux. On les fait venir, et là, comme il y a quand même une promiscuité évidente, étant donné que l'habitat n'est pas tellement spacieux, il y a disons, comme disait Martine Ségalin, il y a quand même un climat affectif qui se crée et il va y avoir un choix. Et lorsqu'il y a plusieurs prétendants, alors là, il peut y avoir rivalité. Et là, il y a un symbole qui a été plusieurs fois raconté, à savoir que lorsque le père voulait se débarrasser de l'un d'eux, il allait mettre, par exemple, un fagot d'épines noires, enfin, d'aubépines avec des piquants, si vous voulez, au cheval et au gendre préféré lui donner du foin. Alors là, le gars n'avait pas besoin de revenir à la maison.
Il y a un proverbe qui dit « Tison montant, chasse galant ». Ouais. Parce que ça veut dire que, mis dans ce sens-là, le feu ne va pas prendre et donc le feu de l'amour de celui qui vient de se proposer, en quelque sorte, n'est pas accepté.
Ouais. Alors imaginons des fiançailles heureuses. Comment le père de la jeune fille va-t-il signifier, sans parler, à son futur gendre, qu'il est donc accepté.
Mais il y a tout un ensemble de symboles qui, en fait, dépendent des régions. Dans certaines régions, des symboles qui, sans qu'aucune parole ne soit exprimée, le garçon n'a même pas besoin de poser la question pour savoir qu'il est accepté ou non. Car à tout prix, ce qu'il faut, c'est conserver les relations sociales, ne pas se fâcher, ne pas être en position de dire « Non, je ne vous veux pas, allez-vous-en ». Alors, dans certaines régions, la jeune fille roulait son tablier, ce qui est le tablier étant une partie du costume qui a un fort symbolisme sexuel, et ça veut dire oui ou non, ou au contraire, dans d'autres régions, on sert des plats d'œufs qui sont des symboles de fécondité et donc symboles d'acceptation, et c'est comme ça que les choses se nouent petit à petit. Il y a d'abord eu cet accord tacite entre les jeunes gens, comme le dit Michel, puis ensuite le cercle étroit de la communauté familiale, puis ça devient un petit peu plus opposable aux autres. En
et puis il y a aussi des meubles, enfin le jeune homme oui, ne peut ça. Pas s'asseoir partout.
Par exemple, oui, une... En Poitou, on dit couramment que seul le gendre peut s'asseoir sur la boîte à sel. C'est voilà. Le petit coffre à sel qui est près de la cheminée, n'est-ce pas? Il peut s'asseoir aussi sur la mets, là où on pétrit le pain.
Et, si ah, ça, c'est quand il est marié. Avant, il ne peut pas.
Oh, si, il peut, si. Ça dit, il peut, oui. Mais enfin, pas sur la table, toujours. Il ne doit pas s'asseoir sur la table, mais il pourrait s'asseoir sur le lit aussi. Mais alors là, ça renvoie un petit peu à la coutume de courir la trosse, c'est pas ça?
Martine Ségalen, vous dites qu'en aucun cas il ne peut effectivement s'asseoir sur le lit, car là, ça serait une transgression absolument atroce. Quand le jeune homme rentre à l'intérieur de la maison de sa future femme.
J'ai dit ça, moi.
Oui, il me semble. Il me semble qu'il y a des endroits, il y a des gestes qu'on ne peut pas faire avant que le mariage ait lieu à l'intérieur de la maison de la fille.
Oui, c'est certainement. Enfin, il faut qu'il tienne sa place tant qu'il n'est pas le gendre et le futur gendre en place. Et puis, plus encore, s'il y a cohabitation, votre dame, là, que nous entendons de temps en temps et qui nous dit des choses fort intéressantes, parlait au début de cette interview de cohabitation. Il faut attendre aussi que le gendre soit vraiment fait gendre et qu'il ait eu la remise officielle de la direction de l'exploitation s'il doit cohabiter avec ses beaux-parents.
Jeune fille quand on se fréquentait avec un jeune homme. Avant, on n'était pas une enfant. Alors, si on se fréquentait avec un jeune homme, d'ailleurs, on se mariait très jeune, vous voyez. À 20 ans, on se mariait souvent à 20 ans. Parce que, il faut se rendre compte, dans ce temps-là, n'est-ce pas, nous étions tenus, très tenus par les parents. Et comme mon mari, moi, était du village, et bien, il venait souvent garder les bêtes, même en semaine avec moi. Mais il ne se faisait pas voir.
Alors ensuite, il y avait le mariage. Le mariage, ça devait être une très, très grande fête.
Ah, c'était la plus jolie fête de la vie. C'était très grave. Évidemment, pour le mariage, ce qui était pour la plupart des jeunes filles de notre pays, c'était un jour extraordinaire, mais vraiment très, très grave. On était vraiment bien consciente, voyez, les parents en causaient quand même. Ils disaient, non seulement ils noircissaient pas l'avenir, mais ils ne les mettaient pas au plat. Ils ne faisaient voir vraiment, ils faisaient ressortir toutes les choses qui étaient difficiles. Au plan, n'est-ce pas, de la sexualité, il n'en était jamais parlé. Jamais, jamais.
Et à la fin du repas de noces, il y avait la fameuse cérémonie. On enlevait d'abord la jarretière à la mariée.
Ah oui, mais dans certaines, les familles qui étaient bien dignes, qui étaient plutôt, qui avaient beaucoup de respect, n'acceptaient pas ça.
Ah bon.
Oui, mais alors remarquez que c'était quand même bénin, c'était pas quelque chose de méchant. Alors bien sûr, vous savez, évidemment qu'à la campagne aussi, ils se disaient bien un petit peu, mais c'était pas méchant, c'était pas non plus, on peut pas le noircir, c'était bien rigolo, c'était plutôt un peu rigolo. On allait tourner aussi les mariés. Quand ils venaient, vous savez, les mariés, normalement, partaient vers 2h du matin, alors ils ne disaient pas où ils allaient coucher la première nuit du mariage. Alors, évidemment, c'était pour tous les mariages pareil. Les jeunes aux alentours s'intéressaient, questionnaient la maman, les grands-parents, ils essayaient de faire parler celui-ci, les tantes, vous savez, les cousins, les cousines, ça, surtout là, on appelait ça la contre-novie dans le temps, là, vous savez, la fille de la mariée, comment on appelle ça, vous savez mieux que moi, celle qui était la première fille de la mariée, là, vous savez, là.
La demoiselle d'honneur.
La demoiselle d'honneur. Alors, celle-ci, n'est-ce pas, c'était elle qui s'intéressait à tout. Et elle tâchait assez longtemps avant de savoir où il pourrait aller voir les mariés leur nuit de noces, pour les tourner ou pour bien rigoler, pour les leur faire un peu de misère, voyez. C'était un peu l'habitude.
Et on vous a fait ce coup-là, vous ?
Eh bien, on m'a fait ce coup-là. Ce qui était rigolo, c'est que les jeunes ne nous ont pas trouvés. C'est que déjà ceux qui étaient mariés qui nous ont trouvés, vous voyez, les demi-jeunes. Ils étaient encore plus mauvais que les jeunes, ceux-ci. Parce qu'alors là, tout passait par la fenêtre.
Alors qu'est-ce qu'on
pas la mariée. Ah, ben, vous savez, des fois, le plochon, tout ça, s'il faisait beau... Oh non, ils n'abîmaient pas les affaires. Mais s'il faisait beau, vous savez, des fois, ça avait tendance à des fois passer un peu par la fenêtre pour rigoler, ça faisait beau, vous savez. C'était un peu du tintamarre.
On vous a pas fait avaler aussi une drôle de boisson?
Ah oui, ah mais ça, vous savez, j'aime pas beaucoup ça. Je trouve ça un peu, voyez, d'un autre temps, voyez, c'est vraiment...
Alors,
ça,
c'était quoi, cette
j'aime
boisson?
Pas tellement en parler, c'est ça. Oh ben, vous savez, c'était un pot de chambre qui d'ailleurs était tout neuf, qui était très propre, voyez. Mais alors avec des papiers de cigarettes, du chocolat, enfin, ce que je veux vous dire, du vin rouge, je sais pas quoi, enfin, écoutez, des choses qui ne sont pas vraiment très jolies, voyez. Même au jour d'aujourd'hui, pratiquement, il n'y a plus de jeunes qui font ça, voyez. Ça fait presque... C'est tout à fait retardé, tout ça.
On vous a obligé à en boire
Ah non, 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 on m'a pas obligé, certes. On m'a pas obligé à en boire. Parce que je pense que le pot de chambre et autre chose, ça leur aurait... je pense bien que je l'aurais envoyé après leur nez. Parce que dans ce temps-là, vous comprenez, j'étais quand même... vous savez, j'étais forte et je n'aurais pas permis qu'on me fasse tourner. Vous comprenez?
Notre Odette de Rochefort-Montagne est effectivement très forte, mais est-ce que ces rituels de pot de chambre à la fin du mariage se pratiquent encore, Martine Segalen?
Oui, contrairement à ce que dit votre Odette de Rochefort, dans un certain nombre de régions de France, je pense que ça a toujours lieu. On a fait des enquêtes en Normandie il y a peu d'années où on nous racontait que ça se pratiquait toujours. C'est pas un rituel à la fin du repas de noces. Il s'agit d'une irruption de la jeunesse dans le courant de la nuit de noces. On a laissé partir les mariés. On sait, comme le dit très bien cette dame, où est-ce qu'ils sont cachés sans le savoir. De toute façon, la noce est marquée par tout un ensemble de circuits, il faut prendre leur pas à un endroit, aller se promener ailleurs, revenir prendre leur pas, circuler dans le village, etc. Et puis les mariés finissent par se retirer, mais ils savent plus ou moins qu'ils vont être trouvés. Et ce qu'on m'avait dit en Normandie, c'est que il y a une force du rituel, il faut le subir, on peut pas passer à travers. Et les jeunes, la jeunesse se serait plus encore vengée si elle avait effectivement pas trouvé les mariés, n'avait pas pu leur faire subir ces rituels.
Mais vous racontez une histoire atroce dans votre livre à propos de jeunes gens qui suivent des mariés, enfin atroce, elle est très morale, et qui, à force de visiter plusieurs maisons, vont tomber sur quelqu'un qui était en train de se pendre.
Mais je crois que vraiment, c'est pas dans mon livre. Mais
ah non, alors c'est dans celui d'Yvonne.
Ça me fait plaisir qu'on le confonde avec celui d'Yvonne.
Non, effectivement. Moi,
c'est vous qui racontez l'histoire.
Oui, bon, cette coutume a lieu aujourd'hui encore dans ce village du Châtillonnais, et on m'a raconté cette histoire. Mais ce qui est drôle, c'est que c'était pas du tout atroce, parce que finalement, tout le monde a trouvé ça très bien, parce que la corde du pendu, ça porte bonheur, donc tout le monde était content. Et en plus, on a trouvé le pendu plus vite. Autrement, il aurait fallu attendre encore quelques jours, parce que c'était dans une maison abandonnée qui s'était pendue. Mais ceci dit, cette coutume du pot de chambre m'est apparue, moi, comme une coutume assez récente, enfin, sous cette forme de pot de chambre. Quand on remonte un petit peu en arrière dans le temps, on s'aperçoit que les soupes étaient très variées d'une région à l'autre et qu'elles étaient servies dans des pots normaux, enfin des pots, des soupières.
Dans des soupières,
une
oui.
Soupe, des saladiers, c'est une salade, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a un changement comme ça de sens par rapport à ces soupes, parce que aujourd'hui la dame a dit « Oh, c'était pas beau !» à voir, mais on ajoute en général que c'était pas beau à voir, parce que c'est un pot de chambre dont le contenu figuré est très scatologique, mais en revanche c'est devenu bon à boire, tandis qu'autrefois les soupes étaient belles à voir, mais pas bonnes du tout, elles étaient très épicées, très chargées de poivre, d'épices, de sel. ou bien au contraire très sucré. Il y avait toujours un mélange, soit un bouillon de poule très épicé, soit une soupe au vin très très sucrée. Mais on peut y voir figurer comme le mélange, enfin des substances propres à favoriser la procréation de la jeune femme, parce que le mélange beaucoup de sel, beaucoup de vin revient symboliquement à figurer le mélange sel, donc sperme de l'homme, et vin, sang de la jeune femme, et le tout mélangé dans le pot, et le pot figure très souvent la matrice de la jeune femme, va en quelque sorte favoriser la conception.
Et en plus, le sel et le vin, c'est des nourritures qu'on recommande de préférence pour avoir des garçons. Mm-hmm. Donc le premier-né devant être de préférence un garçon, ça s'explique aussi pour ça, mm-hmm. je pense.
Mm-hmm. Enfin, ces coutumes restent très très vivantes, même sous leur forme scatologique aujourd'hui. Et de toute façon, les traditions scatologiques sont aussi très très fortes. Et bon, tout ceci s'accorde très bien à l'ancienne coutume.
Alors, il a fallu, évidemment, j'avais 20 ans, il a fallu que je reste avec mes beaux-parents, ce qui a été un vrai grand problème pour moi. Et je vous assure que je n'aurais jamais voulu que mes enfants aient à rentrer avec les parents ou les beaux-parents, tout ça. Ça, c'est une chose vraiment terrible. Parce que vous savez, dans ce temps-là, évidemment, c'était l'habitude. Ça, je n'en veux pas à mes beaux-parents, c'était l'habitude. Ils avaient l'habitude de commander, on devait obéir, on était jeunes, bon, on avait caractère souple, mais tout de même, c'était trop dur. Parce que, vous savez, moi, mon mari, quand il arrivait, il me disait, bon, tu iras chercher de la salade au jardin, j'aime bien ça. Bon, la belle-mère, quand j'arrivais de garder les troupeaux, elle me disait, tu trouves que j'ai pas assez fait de dîner? Alors, pour contenter mon mari, je déplaisais à la belle-mère. Pour contenter la belle-mère, je déplaisais à mon mari. Ce qui n'était pas des drames, bien sûr, mais qui était quand même au début d'un mariage des grosses piqûres qui étaient difficiles à supporter, voyez, et qui troublaient notre intimité. Parce que jamais j'aurais été embrasser mon mari devant mes beaux-parents, voyez, ce qui était quand même triste. Alors, ça abîmait beaucoup l'intimité d'un jeune foyer. C'est pas ce qui nous a empêchés de nous entendre, voyez, de nous aimer. Ça, non. Mais je suis quand même restée 3 ans avec mes beaux-parents. Vraiment, je ne pouvais plus supporter ça. Je regrette une chose, c'est que je n'ai pas su assez profiter de mes enfants quand ils étaient petits. Je n'en ai pas assez profité. Et puis, avec mon mari, nous avons beaucoup, voyez, nous avons beaucoup travaillé et pas assez pris de bons moments ensemble. Voyez, c'est ce que je regrette, ça, le plus. C'est ce que je regrette le plus. Et bien souvent, quand on est plus jeune, on s'en rend que bien souvent après, parce que j'entends bien les grands-mères dire ça aussi. Et ça, je le regrette un peu.
Quand il y a 2 femmes à la maison, il y en a une de trop. Couper le pain en belle-mère, cela veut dire couper le pain de façon parcimonieuse. Martine Ségalen, l'entrée de la jeune femme dans l'exploitation agricole, alors que la belle-mère est là, pose quelques problèmes. Il y a toute une série de rituels pour faire en sorte que la jeune femme puisse entrer à l'intérieur de la maison de la belle-mère.
Effectivement, je crois que le témoignage de notre Odette. Amie Odette est tout à fait intéressant. Sur ces problèmes de cohabitation. Il y a au moment du mariage, effectivement, un certain nombre de rituels, de passation de pouvoir qui se fait par l'intermédiaire d'une louche, d'instruments culinaires, bien sûr, qui symbolise la fonction essentielle de la femme au sein de la maison, mais qui sont censés donc aplanir un certain nombre de ces difficultés. Mais il est probable que ces difficultés existaient. Là encore, la situation est très différente selon les régions de France. Il y a des régions de France où la cohabitation est absolument instaurée de par le système d'héritage, en particulier dans le sud est de la France, alors que dans des régions comme la Bretagne, ou plutôt comme le nord de la France, le modèle, comme on peut dire, serait plutôt à une installation indépendante des jeunes gens. Mais il est évident que les fermes étaient quelquefois difficiles à trouver et qu'ils ne pouvaient pas, enfin, que l'installation ne coïncidait pas avec le mariage du jeune couple et qu'ils avaient plusieurs années à passer avec leurs beaux-parents. Alors, en somme, aux difficultés de trouver une place pour la femme au sein de l'exploitation, se trouvait cette difficulté de trouver sa place à l'intérieur de la maison lorsque c'était la femme qui était étrangère dans sa maison.
Oui, car la belle-mère décidait de tout, c'était la belle-mère qui faisait la cuisine. Et vous racontez une étrange histoire, puisque les Nuits Magnétiques, la semaine dernière, ont fait une série sur les poules. Il fallait que les unions à l'intérieur de la société traditionnelle soit féconde. Et il y avait, je crois que c'était dans l'Orléanais, une étrange coutume entre le mari et la femme pour que l'union soit féconde.
Oui, c'est un rituel assez ancien qui est rapporté par un des premiers folkloristes de l'Académie celtique se passait au moment du mariage. Je dis que c'est un rituel assez ancien parce que nombre
d'entre...
Il n'est
plus pratiqué.
Enfin, il n'est plus ou il n'était plus attesté même à la fin du 19e siècle. Il a été raconté pour le début du 19e siècle. On faisait asseoir le jeune marié dans une espèce de baquet et il devait pousser le cri du coq et la jeune mariée qui symbolisait la poule chantait le cri de la poule en tournant autour du baquet. Ce qui est intéressant dans ce rituel et qui a duré dans toute la société paysanne et continue, c'est cette espèce d'assimilation entre la femme, la poule, la basse-cour. Parce que je parle dans mon livre essentiellement de la ségrégation des espaces masculins et féminins. Et la maison est un lieu essentiellement féminin avec son prolongement extérieur qui est le jardin potager et la basse-cour. Et il y a nombreux proverbes, quand ils veulent critiquer la femme, les excès de la femme, les excès de sa sexualité, ne disent pas explicitement, mais passent par le truchement de la poule.
Et puis il y a aussi, bien évidemment, le fait que cette union à l'intérieur de la société traditionnelle, dans un village, quand un homme et une femme vivaient ensemble, on a vraiment l'impression qu'ils étaient absolument surveillés sans arrêt. Et que finalement, c'était le village entier qui les contrôlait. Vous racontez notamment, à chaque fois qu'il y avait un adultère, eh bien, c'était soit les voisins, soit le reste du village qui le signifiait d'une façon ou d'une autre.
Oui, c'est-à-dire que la notion de couple que nous avons actuellement, la notion de vie conjugale, de couple renfermé dans sa maison et un couple papa, maman, les enfants dans un petit appartement, dans un HLM, est quelque chose d'assez moderne. Et le couple d'abord, mari et femme dans la société paysanne sont d'abord insérés dans une maisonnée beaucoup plus large, dans laquelle il pouvait y avoir, comme on le disait, donc les beaux-parents, dans laquelle il peut y avoir des domestiques, à laquelle les animaux sont associés d'une certaine façon. Et puis ces ménages sont tous plus ou moins apparentés les uns entre les autres et ils sont sous l'œil mutuel les uns des autres. Alors lorsqu'il y a des histoires d'adultère, lorsqu'on sait trop ouvertement que la femme bat trop souvent son mari, ou quelquefois d'ailleurs le mari trop souvent sa femme, à certains moments de l'année qui sont destinés à cela, il y a des charivaris, des promenades à ânes, où on rend public tout ce qui est une espèce de déviation de ce qui est la norme acceptée dans les relations familiales.
Michel Vallière, on est en train de parler de l'amour à l'intérieur de la société traditionnelle, mais quand on lit le témoignage que vous avez pu recueillir auprès d'une dame qui a 70 ans, Adeline Jodrelet est un pseudonyme bien évidemment, on a vraiment l'impression que l'amour dans la société traditionnelle n'était pas très drôle à vivre. Chaque jour, quotidiennement, on a l'impression d'une immense détresse. Cette femme vous a parlé, j'imagine, pendant de nombreuses années, puisqu'elle a pu vous dire ce qu'elle vous a dit. Et ce qui revient de façon complètement lancinante, c'est au contraire cette impossibilité de pouvoir vivre l'amour, cette espèce de surveillance constante, des hommes qui ressemblent plutôt à des bêtes.
Tout ça dépend évidemment des partenaires. Son cas n'est pas un cas unique. Depuis que le livre est paru, on m'a signalé beaucoup de cas semblables. Tout le monde a retrouvé son voisin. On y trouvait nos grands-mères. Disons que l'intérêt du discours d'Adeline, c'est qu'elle décrit ce qu'elle aurait aimé, ce qu'elle aurait souhaité, et la conduite du mari la pousse à la déviance. Donc on a dans son discours ce qu'elle imagine comme étant la norme, et qui est à peu près la norme au fond de la société englobante, et la déviance, évidemment, met en lumière les difficultés. Pour en revenir à la belle-mère, souvent aussi c'était les beaux-parents, et la belle-mère en particulier, qui contrôlaient les naissances et le nombre d'enfants qui devaient avoir lieu, surtout s'il y avait un bout de benin, surtout s'il y avait une certaine propriété, et qu'il ne fallait pas morceler en trop de morceaux, sinon ensuite de bombes propriétaires terriens passant tout petit. Et justement, Adeline nous raconte que dans une famille, eh bien, une fois qu'il y avait eu le premier enfant, on avait empêché la cohabitation dans le lit même des gendres de la belle et de la fille et du gendre. Alors, ils se sont retrouvés ailleurs, et ça n'a pas empêché de nouvelles maternités.
Enfin, Adeline a 70 ans, elle a eu 14 enfants, et pour terminer cette émission sur les rapports hommes-femmes à l'intérieur de la société villageoise, j'ai recueilli le témoignage d'une femme qui vendait ses légumes sur un marché en Auvergne. Voici ce qu'elle dit actuellement de sa situation. Depuis combien de temps vous êtes agricultrice ?
Je suis agricultrice depuis 24 ans, depuis mon mariage. J'étais fille d'ouvrier et j'ai enseigné pendant 3 ans avant d'épouser un agriculteur.
Alors comment ça s'est passé, votre mariage ?
Je connaissais mon mari qui habitait le même village que moi. Nous sommes connus depuis l'enfance. Et j'aimais beaucoup le métier. J'aimais la nature, j'aimais la vie à la campagne. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi l'agriculture. J'ai choisi l'agriculture parce que mon mari était agriculteur. Et il se serait difficilement habitué ailleurs. Et j'ai donc été agricultrice parce que mon mari était agriculteur et je ne l'ai jamais regretté. C'est un métier qui m'a beaucoup apporté.
Et déjà, quand vous êtes mariée, est-ce qu'il y a des coutumes auxquelles vous avez été obligée de vous soumettre ? Comment avez-vous été accueillie par votre belle famille ? Comment ça s'est passé ?
J'ai été pas mal accueillie par ma belle famille, mais enfin, je peux dire qu'ils étaient inquiets pour l'avenir. Comme je ne connaissais pas le métier, et ils étaient inquiets, ils avaient peur que je n'arrive pas à travailler avec mon mari, que je manque d'efficacité. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, parce que je suis arrivée dans le milieu agricole sans habitude, et j'ai pu changer des choses justement parce que je venais d'un autre milieu. Et aussi, moi je suis d'un tempérament assez frondeur, disons que j'ai voulu prouver que je pouvais faire quelque chose, et j'ai donc appris, ça a été très très dur, j'ai appris et je suis arrivée, et je suis très contente. Il a d'abord fallu apprendre à travailler avec mes mains, et les foins c'était très dur, c'est la chaleur, et surtout il y a 25 ans on faisait le travail à la main, alors que maintenant on a des presses, c'est très différent. Il a fallu que j'apprenne à supporter la chaleur, et ça c'est très très dur. Il a fallu apprendre à cultiver le sol, à manier la pioche. J'avais des ampoules, et la première année ça a été très dur, la deuxième année aussi. Et ensuite, j'ai appris la gestion, c'est-à-dire arriver à produire au moindre coût, arriver à vendre, puisqu'on a développé... On a développé la culture maraîchère parce qu'on avait une exploitation qui était trop petite, et on a vendu nous-mêmes sur le marché nos produits, et j'ai appris comme cela, sur le tas.
Au départ, l'exploitation agricole de votre mari était importante. Alors, elle faisait combien de superficie ?
Au début, nous avions pour deux ménages 17-18 hectares, dont 10 hectares qui étaient sur une commune voisine en friche. Disons, en friche, non, même pas, mais des prés mal exploités. Et maintenant, nous avons en fermage voie en propriété une cinquantaine d'hectares, dont 3 hectares de culture maraîchère, mais surtout de plein champ.
Les deux ménages, c'était qui ? C'était le vôtre et puis lequel ?
C'était les deux ménages, c'était mon beau-père et ma belle-mère, et mon mari et moi-même.
Comment ça s'est produit, ça, cette arrivée pour vous ?
Je pense qu'il a fallu beaucoup de patience des deux côtés. On a cohabité 13 ans ensemble, et disons que c'est quelque chose que je ne conseillerais à personne. Ce n'est pas... Enfin, c'est difficile aussi bien pour les parents que pour les enfants.
Oui, parce que la propriétaire des lieux, c'est quand même la belle-mère.
Voilà. Et on a quand même... c'est-à-dire, on se marie. Moi, j'avais 20 ans, 19 exactement, quand je me suis mariée. On est avec sa mère, on se marie pour avoir un peu de liberté, et alors qu'on retombe sous la tutelle d'une belle-mère, malgré tout, hein, même si la belle-mère est gentille.
Alors vous mangiez avec eux, vous viviez toute la journée avec eux ?
On mangeait avec eux, mais on couchait quand même dans une maison à côté. Mais sans confort, ça a été ça aussi, sans confort, sans eau, sans chauffage.
Et est-ce que votre belle-mère vous a initié à une série de choses ou est-ce qu'au contraire elle vous laissait vous débrouiller petit à petit ?
Oh, disons que ça s'est pas mal passé.
Et à partir de quel moment alors elle a décidé que vous étiez, que vous pouviez devenir propriétaire comme elle de l'exploitation agricole ?
Oh, il n'y a pas de date, vous savez, les choses, la nature, les choses se font insensiblement. Nous les paysans, nous on disons que tout est comme ça, on sème, les graines germent et on récolte plus tard. Et pour les habitudes, c'est un peu pareil. Les choses vont insensiblement comme la nature. Et c'est juste l'agriculture m'a appris la patience. Je suis une nature très impulsive, moi, et aimant les résultats tout de suite. Alors que être agricultrice, c'est vivre avec la nature, c'est vivre avec le temps, avec les saisons, c'est attendre que les choses mûrissent. Et ça, c'est très important.
Je rappelle les titres de vos différents livres. Façon de dire, façon de faire. La laveuse, la couturière et la cuisinière d'Yvonne Verdier aux éditions Gallimard. De Françoise Loux, un merveilleux livre qui est aussi un livre d'images. Le corps dans la société traditionnelle chez Berger-Levrault, à base donc de textes et d'iconographie. De Martine Ségalène, Marie et femme dans la société traditionnelle chez Flammarion. De Michel Vallière et Isabelle Laurent, Adeline Jodrolet, Amour paysanne, chez Stock. Et je signale aussi le livre de Marie-Claude Pingot qui est paru il y a 2 ans, toujours sur le village de Minot dans le Châtillonnais comme Yvonne Verdier, qui s'intitule « Paysans en Bourgogne, les gens de Minot » chez Flammarion, ainsi que le livre qui vient juste de sortir de Françoise Zonabin, toujours sur Minot, « La mémoire longue, temps et histoire au village » aux Presses universitaires de France. Jean-Patrick Boutet, Alain Arnstam, Annie Lebeg, Pamela Dousseau, Laure Adler, bonsoir.
C'était Nuit magnétique, façon de parler, proposée par Laure Adler, le 16 avril 1980, sur France Culture.